Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et on vient d'écouter Jacques Higelin qui interprète Les Chaussettes à Clous, hein, qui est une chanson de Boris Vian, Les Chaussettes à Clous, vous l'aurez compris. Ce sont les Rangers qui équipaient à ce moment-là les CRS et les gendarmes et qui avaient des semelles cloutées, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et on est toujours avec Laure, hein, Laure Blondel de l'ANAFE, et donc tu vas continuer à nous parler, et notamment des familles en rétention et surtout en zone d'attente.
Oui, alors pour finir sur cette nouvelle pratique de placement en centre de rétention après la zone d'attente, avec entre les deux un passage en garde à vue. Au-delà du fait que ce placement en garde à vue finalement amène à une espèce de cercle infernal de l'enfermement, puisque donc les personnes sont enfermées en zone d'attente, puis garde à vue, puis centre de rétention. Si elles refusent d'embarquer en centre de rétention, elles peuvent être aussi poursuivies pour le délit de refus d'embarquer et du coup risquer prison et interdiction du territoire français également. Donc on arrive vraiment à une espèce de cercle de l'enfermement. Donc au-delà de cette question là comme ça qui est posée par cette nouvelle pratique et des objectifs en fait qu'il y a derrière, il y a les dérives qui ont été constatées par nos associations et par l'ANAFE, puisque sur ces 331 personnes, personnes donc, qui sont placées en centre de rétention, il y avait des familles avec enfants. Et nous, ce qu'on a pu voir, donc pour les familles avec ou sans enfants, c'est que les membres de la famille n'étaient pas toujours placés le même jour en garde à vue. Donc, par exemple, le père, aujourd'hui, on est combien, le 20 février, la mère et l'enfant le lendemain, le 21. Et donc, du coup, l'OQTF n'est pas à la même date avec le placement en centre de rétention. Et donc, on s'est retrouvé avec des familles qui n'étaient pas placées dans les mêmes centres de rétention. On a également eu le cas d'une famille où les deux parents ont été placés en garde à vue, placés directement en centre de rétention. Les enfants mineurs n'ont pas été placés en garde à vue, ont été placés directement en foyer. Et il a fallu faire des démarches pour réunir la famille. Et donc, réunir la famille pour l'administration, ça ne veut pas dire libérer les parents pour qu'ils puissent rejoindre leurs enfants sur le territoire. Ça veut dire faire sortir les enfants du foyer et les placer en centre de rétention en vue de leur éloignement.
Bonnes vacances en France.
Tout à fait. Donc ça, ça nous semble quand même extrêmement, extrêmement préoccupant. Et l'autre chose préoccupante, c'est concernant spécifiquement les demandeurs d'asile, puisque aujourd'hui, en centre de rétention, pour les personnes qui vont faire une demande d'asile, on est sur à peu près une personne par an qui va obtenir statut de réfugié depuis un centre de rétention. Avec cette nouvelle pratique, donc les personnes qui sortent de zone d'attente, qui ont fait une demande d'asile en zone d'attente, alors juste, je dirais que c'est une procédure dérogatoire en zone d'attente. On ne sort pas de la zone d'attente avec un statut de réfugié ou une protection subsidiaire. On sort de la zone d'attente avec une autorisation pour déposer une demande d'asile sur le territoire français et entrer dans le parcours kafkaïen de la demande d'asile sur le territoire. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a eu un rejet à la frontière qu'on aura un rejet sur le territoire. Et cette nouvelle pratique l'a vraiment mis en exergue, puisque en 2018, il y a eu 7 statuts de réfugiés accordés en centre de rétention, donc 7 fois plus que d'habitude, et qui concernaient tous des personnes sortant de zone d'attente. Ce qui donc interroge vraiment sur la politique de tri qui est mise en place en zone d'attente.
Voilà, c'est tout à fait surprenant, ça. C'est...
Oui.
Je vais te demander pourquoi, mais tu t'interroges aussi.
C'est ça.
Et donc, il va y avoir aussi la réforme qui vient d'entrer en vigueur, hein, du code d'entrée et du séjour, va transforme des choses en zone d'attente.
Alors, je dirais oui et non, dans le sens où...
Alors, je reformule. Que transforme la réforme, de façon plus ouverte, que transforme la réforme
Alors déjà, faut replacer cette réforme dans son contexte. C'est-à-dire que cette réforme 2018, elle arrive, donc qui est une réforme qui vise à la fois l'immigration et la demande d'asile. Elle arrive en 2018, alors que il y a eu une grosse réforme de l'asile en 2015, une réforme immigration en 2016, qui était elle-même précédée d'une réforme en 2011. Et donc là, on est quand même sur un rythme de réforme extrêmement rapide et important. Et le principe de ces réformes, au-delà de la zone d'attente, mais de façon globale, c'est que ces réformes ne viennent pas améliorer les droits des personnes, mais viennent améliorer les objectifs, les politiques migratoires de notre gouvernement. Et donc, on est à chaque réforme, vraiment, enfin depuis les années 90, mais vraiment depuis les années 2000, on est vraiment sur, à chaque réforme, un recul des droits pour les personnes étrangères, qu'elles soient sur le territoire, qu'elles soient en rétention ou qu'elles soient en zone d'attente. Et en zone d'attente, on est vraiment clairement là-dessus parce que l'argument qui est opposé à chaque fois, c'est de dire que c'est le contrôle des frontières qui doit primer avant tout. L'objectif, c'est on doit contrôler les frontières, on doit protéger d'une d'une soi-disant invasion de personnes migrantes. Et donc, à ce titre-là, il y a systématiquement un recul. Ce qui est intéressant par rapport à la zone d'attente, ce qui est intéressant, si je me permets de m'exprimer ainsi, c'est que déjà, la zone d'attente, c'est le seul lieu d'enfermement où on va trouver des mineurs isolés. Puisque sur le territoire, un mineur isolé n'est pas en situation irrégulière, en tout cas ne devrait pas être considéré comme tel, et donc ne peut pas être placé en centre de rétention puisqu'il ne peut pas être éloigné du territoire. Alors, la zone d'attente, ce n'est pas le territoire.
On a quand même des mineurs qui sont...
Oui, c'est pour ça que j'ai dit censé. Ouais.
mais en fait, ils sont là, ils ont quasiment le statut de visiteur puisqu'ils accompagnent leurs parents en rétention.
Là, je parle effectivement de mineurs isolés. Ouais. Parce qu'il y a effectivement toute cette problématique des familles avec enfants dans les centres de rétention. La France a d'ailleurs été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Là-dessus, rien n'a changé. Mais la zone d'attente, du coup, on a cette problématique de familles avec enfants et de mineurs isolés, puisque ce n'est pas le territoire. Donc, du coup, dérogatoire. Ce qui compte, c'est le contrôle des frontières. Sur le territoire, on ne peut pas les enfermer pour les éloigner, alors qu'en zone d'attente, il n'y a absolument aucun souci à enfermer des mineurs de 3 ans, 6 ans, 17 ans dans ces lieux-là. Et il y a une revendication de l'ANAFE, mais également Comité des droits de l'enfant de l'ONU, Comité des droits de l'homme de l'ONU, Comité contre la torture de l'ONU, Comité de prévention de la torture du Conseil de l'Europe, commissaire européen aux droits de l'homme, niveau français, défenseur des droits, Commission nationale consultative des droits de l'homme et contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui demande à la France de cesser d'enfermer les enfants depuis depuis quand même quelques années. La France ne bouge pas d'un iota et ne veut pas remettre en cause cet enfermement des mineurs dans l'intérêt du contrôle des frontières. Donc du coup, de ce point de vue-là, la réforme 2018, comme les dernières réformes, n'ont absolument rien changé. Il y a quelques éléments cosmétiques dont je n'ai pas le temps de parler là, qui ont été mis pour faire genre « on prend en compte les vulnérabilités », mais en vrai, il n'y a rien qui change. Ce qui change concrètement, c'est qu'à chaque réforme, et la réforme 2018 a été dans cet état d'esprit-là, c'est d'éloigner les personnes maintenues du juge. C'est-à-dire que non seulement l'intervention du juge est tardive, mais en plus, on va mettre en place des mesures où, si par miracle, la personne arrive à faire un recours en français suffisamment motivé en fait et en droit, le juge peut rejeter sans audience. Et donc ça a été quelque chose qui a été très banalisé, porte ouverte, sur ce qu'on appelle donc les rejets au tri, où du coup, on affirme une possibilité pour le juge de ne même pas voir la personne pour décider de son sort. On parlait tout à l'heure de la visio-audience qui a été si largement banalisée. Donc, pour la faire très courte, cette dernière réforme concernant les frontières a vraiment mis en place des systèmes pour éloigner le juge, renforcer les possibilités de contrôle par l'administration, a mis en place un droit dérogatoire aux frontières internes, mais ça, alors, on parlera plus longuement la semaine prochaine. Mais juste pour la faire courte, depuis au moins 2 ans, même 3 ans, avec le rétablissement des contrôles aux frontières internes, ce qu'on constate, c'est un certain nombre de violations des droits. Et aux frontières internes, en disant que, donc notamment à la frontière franco-italienne, en disant que ça ne s'applique pas comme aux frontières externes. C'était une violation des droits. La réforme est venue dire, bah, y a violation des droits qu'on va du coup inscrire dans le marbre comme une possibilité légale. Donc on est venu légaliser des violations des droits avec cette réforme. Donc, très concrètement, le paysage politique est quand même largement défavorable pour les personnes maintenues. Il n'y a pas d'assistance juridique dans le sens où il y a un refus de mettre en place une permanence gratuite d'avocat. Les enfants continuent d'être enfermés. Le juge, l'accès n'est pas garanti. Les droits d'accès aux soins, j'en parle même pas, c'est quasi inexistant. Donc ce contexte est largement défavorable. Et spécifiquement concernant la question des droits de l'enfant, il y a cette problématique du placement de mineurs isolés. Donc, si je vous donne quelques chiffres, alors j'ai des données pour 2017, en tout, il y a eu 218 mineurs isolés avérés, donc reconnus par l'administration comme mineurs isolés. On ne sait pas combien de mineurs se sont déclarés mineurs et ont été reconnus majeurs par la police aux frontières. On le sait, puisque l'ANAFE en suit un certain nombre, mais on n'a pas le nombre global.
C'est pas négligeable, en tout cas.
C'est absolument pas négligeable. Et pour 2018, on a eu des statistiques uniquement pour la zone d'attente de Roissy. Je rappelle que c'est la plus grosse zone d'attente de France. 2018, 513 mineurs accompagnés et isolés. Donc 513 mineurs, dont 134 mineurs isolés. Donc la différence entre 513 et 134, c'était les mineurs avec leurs parents ou un membre de famille. 134 mineurs isolés reconnus comme tels par la police aux frontières, avec 50 examens osseux pratiqués.
Et à propos d'examens osseux, donc, mais là, très très vite, parce qu'il nous reste à peine une minute.
Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est important de le dire. Il y a actuellement un contentieux sur ces tests osseux. Il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée en décembre. Là, 9 organisations, dont l'ANAFE, sont parties à cette QPC, donc question prioritaire de constitutionnalité, où en gros, les tests osseux sont autorisés par l'article 388 du Code civil. Mais ce sont des tests qui datent d'un autre âge, qui ont été élaborés dans les années 30, qui ont une marge d'erreur de 18 mois à 3 ans, ce qui peut être énorme, notamment quand on a un peu plus de 15 ans. Il y a des conséquences en termes de santé, puisqu'on parle d'irradiation quand même, qui ne sont pas pour des soins curatifs, mais uniquement pour les besoins d'administration. Et ces tests osseux sont la plupart du temps faits sans le consentement du mineur. Donc ça pose quand même trois questions. Et donc là, Conseil constitutionnel va statuer sur ce point donc, à l'audience du 14 mars prochain. Donc on aura le temps de revenir plus largement sur cette question des tests osseux. Mais donc le Conseil constitutionnel va pour la première fois regarder si ces tests osseux sont conformes à la Constitution française. Ce qui est extrêmement important, puisqu'il faut quand même le rappeler, les tests osseux sont aujourd'hui le seul et unique moyen utilisé par l'administration pour déterminer l'âge des enfants.
Et ils n'ont pas été faits pour déterminer un âge légal, mais pour déterminer un âge osseux, c'est-à-dire un niveau de calcification des os, et qui sont extrêmement efficaces en termes de thérapie, hein, donc ils ont une utilité thérapeutique indéniable, mais pas du tout en médecine légale. Et ben, merci beaucoup Laure, et puis maintenant on va passer très très vite à notre agenda. Donc...